Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à ce magazine spécial vous proposé par le CORACON en partenariat avec Internews et le programme Vox Congo. À son menu, la sécurité des journalistes du Nord qui vont en période préélectorale, état des lieux, défis et perspectives. Au Nord Kivu, les journalistes travaillent dans un environnement particulier à cause de l'insécurité dans plusieurs points de cette province. En période électorale, la mission du journaliste est d'aider les citoyens à faire un choix responsable de leurs dirigeants. Les professionnels des médias, en faisant correctement leur travail, font souvent l'objet des menaces des personnes qui ne comprennent pas le bien fondé de la circulation de l'information. Les menaces conduisent parfois à l'autocensure, dans la mesure où le journaliste, sous crainte d'être pris pour cible, choisit de taire certaines informations pourtant utiles à la société. Voilà pourquoi la question sur la sécurité des journalistes en période préélectorale mérite d'être traitée entre journalistes, acteurs étatiques et ceux de la société civile. En période normale, comme en période électorale, les journalistes doivent travailler en faveur de la liberté en respectant les codes d'éthique et de déontologie du journaliste. C'est le point de vue de Rosalie Zawadi, présidente de l'UNPC Nord Kivu, l'une des panélistes au café de presse organisé le lundi 1er mai à Goma.
Beaucoup de journalistes font face à des menaces. Mais lorsque vous vous retrouvez devant des dirigeants qui sont en train de vous accuser de n'avoir pas fait votre travail correctement, votre premier avocat, c'est les codes. Donc, les menaces seront là, les expériences malheureuses seront là, mais votre premier avocat, si vous rejettez, vous serez dans des sales draps. Mais si vous avez fait correctement votre travail, si par malheur, il y a un dirigeant qui n'a pas compris notre travail, ça arrive souvent. Parce qu'on a fait parler telle autorité, on vous taxe d'être de l'opposition ou tel notable. Votre avocat premier, c'est le code. Alors, essayons dans notre travail, tout le temps, d'être juste devant notre code. Si nous ne laissons pas aux yeux de certains acteurs politiques, si nous ne laissons pas aux yeux même de la population, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent qu'on dise qu'il y a du noir. Pourtant, quand on fait les bilans, on fait et les positifs et les négatifs. Il y a ce qui a marché, il y a ce qui n'a pas marché. Être journaliste n'est pas qui dire ce qui n'a pas marché, non. Même ce qui a marché, on doit les relever, c'est présenter les faits de manière équilibrée. Alors, si vous avez fait correctement votre travail, que la population pense que vous êtes partisan, mais si vous l'avez fait correctement, je pense que vous serez déjà devant votre premier avocat, vous serez très déterminé. C'est l'autocensure. Quand nous disons que la sécurité des journalistes commence par lui-même, ça, c'est un grand problème et cela enfreint la liberté d'informer. C'est l'autocensure dans nos rédactions. Il y a telle manifestation quelque part, disons par exemple la lutte va manifester, et les journalistes se disent, bon, pourquoi y aller? Pourtant, c'est un fait, c'est une frange de la population. Ou alors, je couvre une marche des personnes qui protestent, des syndicalistes. C'est la journée du travail. Et sur leur banderole, il y a des messages très durs. Et moi-même, sur terrain, sans même que mon rédacteur en chef me dise quelque chose, je dis ces messages, je ne les reprends pas dans mon reportage. Tellement, je vais dire, ils étaient une dizaine ou une centaine à manifester pour me protéger. Je ne donne pas l'information correctement. J'ai fait l'autocensure moi-même. Et ça, c'est un grand défi. Donc, tout en voulant nous sécuriser, essayons toujours, dans le respect de notre code de déontologie, de donner l'information. Ce n'est pas un journaliste qui doit enfreindre cette liberté d'être informé, une liberté garantie par notre constitution. Donc, donnons l'information en respectant notre code de déontologie, sans trop verser dans l'autocensure. Ça va nous vider de notre substance. Comment est-ce qu'on peut être un vrai journaliste si on a les mains liées sur terrain? On ne peut pas tout dire, non. Respectons les codes, travaillons pour le bien de notre population. Nous sommes là pour éclairer, donner la parole de manière équilibrée.
Pour sa part, Edgar Mahungu, conseiller au ministère provincial de la communication, en période électorale, l'État a besoin de la contribution de tout le monde, et plus particulièrement des journalistes, pour la réussite des élections.
Les acteurs politiques ne nous comprennent pas. Comme journaliste, de par votre manière de faire, de par votre manière de rendre les termes et de jouir des dividendes de votre profession. Car selon un adage, on ne donne que ce que l'on a et ce que l'on est. Mais aussi, l'acteur politique qui s'estime incriminé peut avoir aussi un niveau culturel ou politique faible, ne connaissant pas les rôles des médias. La manière de nous comporter peut aussi faire comprendre l'essence même de notre profession. Les élections, ou que ce soit avant, pendant et après les élections sont d'abord consacrées par notre constitution et la période électorale, c'est une saison particulière dans la vie politique de toute nation, puisque à ce temps particulier, l'État a besoin de toutes les mains pour leur aboutissement heureux, donc les élections. Les journalistes, justement, font partie d'autres nombreux citoyens de la nation pour, justement, jouir de la sécurité qui est le devoir, si pas principal, de l'État ou des gouvernants. Ce n'est pas une affaire des seuls gouvernants, mais la sécurité, c'est une affaire de tous. Ce qui veut dire ceci, les journalistes ne doivent pas se considérer comme des citoyens particuliers, pas comme des électrons libres pour qui tout est permis. C'est pour cela que l'État, conscient de son rôle, de son devoir, protège les journalistes comme de nombreux citoyens qui ont besoin d'être sécurisés. Et l'État utilise ses instruments à travers les différents services. Nous avons l'armée, la police, les services de renseignement, toute autre organisation qui entre en jeu pour garantir la sécurité des journalistes. Bien sûr, nous ne sommes pas un État isolé sur la planète. Nous sommes aussi un État parmi tant d'autres. Nous nous appelons République démocratique du Congo. J'aimerais quand même attirer votre attention sur quelques aspects historiques généraux pour bien comprendre un peu comment agit ce qui dicte, n'est-ce pas, la politique des gouvernements dans la sécurité des journalistes. Dans l'histoire, d'abord, on appelait, il n'y avait pas d'expression de journalistes, on les appelait des nouvellistes, après on les a appelés des reporters des quotidiens pour être renommés journalistes. Mais au cours de l'histoire, ces derniers étaient des mal-aimés, ils étaient même considérés comme des pêcheurs en eau trouble, ils étaient même déniés de tout statut particulier au sein des sociétés, parce que ces derniers étaient considérés comme des acteurs gênants. Bien sûr, au cours de plusieurs régimes, les professionnels des nouvelles, si on peut le dire ainsi, de l'information, n'étaient pas des bienvenus dans l'exercice de leur profession à travers les différents régimes. L'histoire nous démontre qu'il y a des nettes avancées, n'est-ce pas, dans la considération et la structuration de la presse dans les concerts des nations, puisque une nation ne peut vivre sans la presse. Vous êtes des acteurs importants, des acteurs clés pour mener justement le destin de toute nation. Et vous avez vu la loi du 29 juillet 1981, nous sommes dans l'histoire française. Bien sûr, au lendemain de la Révolution française, et il y a eu quand même consacration de la liberté de l'expression par le régime mis en place. Bien sûr, un régime qui émane des desiderata des citoyens qui voulaient jouir de leurs droits fondamentaux. Et plusieurs années, les pouvoirs d'État et la presse, malheureusement, vont lutter l'un contre l'autre pour orienter l'opinion. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons et peut-être ce que viennent de présenter mes deux prédécesseurs. Nous luttons, nous comme gouvernement et vous comme presse, justement, à orienter l'opinion. Bien sûr, à partir des réformes, à partir des avancées, disons, démocratiques. Bien sûr, les journalistes tirent suffisamment de force et de légitimité de leur auditeurs ou lecteurs pour bien sûr surveiller et critiquer le pouvoir politique. À Province du Nord, Kivu, le gouvernement provincial est là, il est à vos côtés et il est conscient qu'il ne peut rien faire sans l'accompagnement, sans l'implication des journalistes pour bien sûr gérer la res publica, puisque vous êtes aussi des acteurs qui contribuent justement avec justesse à la pacification, à la solidité, pourquoi pas la consolidation de la paix à province du Nord Kivu, où les choses ne sont pas si faciles qu'on ne le croit. Et le gouvernement provincial peut-être n'est pas très bien compris par vous dans sa politique sécuritaire de journaliste, puisque vous avez une autre perception de l'accompagnement de l'État à vos côtés dans l'exercice de votre profession. Le journaliste, c'est un citoyen comme tout autre. Il a des droits, il a aussi des devoirs.
Quelle est l'implication de l'armée dans la sécurisation du journaliste? Le major Guillaume Djik, qui est porte-parole de la 34e région militaire, apporte quelques éléments de réponse.
Plan de la sécurité, et surtout qu'il s'agit de la sécurité des journalistes. Comme moi, je suis porte-parole de l'armée et que chaque jour, je suis appelé à être en contact avec les journalistes, je vais essayer de dire quelque chose parce que nous sommes dans une zone à problème. Il y a toujours une ligne rouge à ne pas dépasser, bien que nous devons user de notre liberté d'expression. L'armée, nous avons comme travail la défense sur zone et c'est la police qui travaille à l'intérieur. Mais lorsque nous sommes dans une zone à problème comme notre province du Nord Kivu, vous voyez l'armée partout. Nous sommes obligés, normalement, on ne peut faire le travail de la police que lorsque nous sommes réquisitionnés par la police. Et bien que réquisitionnés par la police, c'est cette dernière qui commande les unités réquisitionnées. Ben, vous comprendrez que nous sommes au Nord Kivu, il y a les opérations et l'armée se trouve partout. Alors, comment nous, forces armées de la République démocratique du Congo, nous comprenons la sécurité des journalistes? D'abord, pour nous, la sécurité, elle est envisagée d'une manière globale. Elle englobe tout citoyen congolais sans préférence aucune. C'est comme ça que nous, en tant que militaires, nous voyons la sécurité. Mais néanmoins, nous comprenons que les journalistes, vu son métier, il a droit quand même à un regard soutenu. Parce que vous êtes sans oublier que les journalistes sont des Superman. Mais tout en étant Superman, tout en devenant star, sachez que vous vous attirez aussi beaucoup d'ennuis. Vous, en tant que journaliste, vous cherchez à bien faire votre travail, à informer. Mais écoutez, il y a d'autre part l'État qui tient aussi à ce que sa sûreté interne et externe soit aussi sécurisée. Et c'est là que les bas blessent. Donc, moi je crois que je suis d'accord avec Madame Rosalie qui a parlé de l'autodiscipline. C'est ça parce que je me dis toujours que faut-il encore sécuriser les journalistes lorsque je vois le GED, lorsque je vois l'OMEC, lorsque je vois différentes structures qui tournent tout autour de la sécurité du journaliste. Je me dis, ben, dans l'ensemble, le journaliste est suffisamment sécurisé. Mais ici, le problème, c'est au niveau de la discipline personnelle, l'autodiscipline. Et nous, en tant que militaires, lorsqu'on parle de l'autodiscipline, je me dis tout de suite, c'est cette ligne rouge-là à ne pas franchir. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Vous, au nom, lorsque vous n'avez pas de discipline personnelle, au nom de la liberté de la presse, vous franchissez la ligne rouge. Ben, écoutez, mon ami, on va vous opposer les nemo audito. Je crois qu'il y a des juristes ici. Nul ne peut se prévaloir de sa propre tilpitude. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Vous la franchissez, écoutez, l'État congolais doit se sécuriser aussi. C'est un peu ça, et moi j'ose croire que tout est dedans, la sécurité du journaliste. Lorsque vous mettez ceci en pratique, je ne crois pas qu'il puisse vous arriver des problèmes. Je recommande à mes amis journalistes avec qui nous sommes de temps en temps de mettre beaucoup plus en application l'article 13 de ce code. Et dès lors que vous êtes en dehors de cet article, recourez vite à l'article 10 et vous n'aurez pas de problème.
Ces interventions des panélistes ont suscité un débat dans la salle. Les participants ont apporté leurs contributions par des questions et des commentaires.
Morgan Dungo, Radio-Télévision Sauti à Matumaïne. J'aimerais poser à notre conseiller. Actuellement, nous sommes en train de vivre l'ambiance, bien sûr, des préélectorales, mais nous avons un sérieux problème, si nous pouvons être pratiques dans notre pays, c'est que maintenant, il y a ceux qui se disent que ce sont eux qui sont en train de vouloir les élections, entre autres la majorité, et l'opposition également, le rassemblement, qui dit que c'est toujours le pouvoir qui est en train de bloquer les élections. Maintenant, comment nous allons nous comporter lorsque la majorité traite peut-être les terroristes parce qu'ils amènent les enfants dans la rue et que les autres traitent aussi de la majorité de bloquer cette affaire. Alors là, il y a un problème pour les journalistes parce que lorsqu'il faut maintenant aller sur le terrain, c'est là où nous trouvons des problèmes.
De placer Ndilamba pour le compte du Sud-Ouest Nord-Kivu. Ma toute première question s'adresse à tous les panélistes. Je voudrais savoir, partout ils ont évoqué des lignes rouges à ne pas franchir. Je voudrais savoir d'abord, la ligne rouge est-elle fixée par des individus ou par la loi? Ça, c'est la première question. La seconde question s'adresse directement au major Ndiki. Il est vrai que la police n'est pas venue et elle n'a juste que sur réquisition. Mais j'aurais voulu qu'ils nous disent s'ils sont réquisitionnés et qu'ils retrouvent un problème dans les chaînes de commandement de ceux qui veulent réprimer une manifestation. Quelle sera la réaction du militaire?
C'est Cosmas Mungazi du journal Flambeau de l'Est. J'ai deux petites préoccupations. La première s'adresse aux autorités sur un cas, d'un exemple que j'ai vécu. J'ai couvert la manifestation de l'élection du vice-président de l'Assemblée. J'ai écrit une brève parce que j'ai parlé de tout ce qui s'est fait là. Je lui ai amené un exemple. Il a dit pourquoi tu as interrogé les cas adverses, c'est-à-dire Djaribou qui avait échoué. Ça veut tout simplement dire à Goma, les sources, les autorités ne veulent pas qu'on parle. Ils veulent qu'on parle de ce qu'ils aiment et non de ce qui se passe effectivement. J'ai écrit un autre article sur les routes électorales à Goma. Les routes, selon cet article, les routes là sont nées dans le contexte des élections. S'il y a une étape d'élection qui naît, il y a activité intense de construction des routes. Et j'ai eu plusieurs 100 followers sur le site, même des grandes autorités qui ont suivi, qui n'ont jamais été aimées, qui m'ont jamais suivi, mais ils m'ont suivi ces jours-là. C'est pour dire que nous avons une liberté, mais pas une liberté totale. Nous avons une liberté par procuration, une liberté très, très contrôlée. Et pourtant, la République démocratique du Congo, elle est démocratique. Si effectivement elle est démocratique, la démocratie est assise sur deux mains. Une main, elle écrit, c'est la liberté de presse. De l'autre, on vote, c'est le suffrage universel. C'est-à-dire, pour qu'on fasse très bien notre travail, nous devons être libres. Et ceux qui doivent nous assurer cette liberté, c'est le pouvoir étatique. Mais nous, nous avons une procuration.
Moi, c'est Auster Malvika, je compte tenir la sécurisation des journalistes pendant les élections. Je vais donner d'abord trois propositions. La première chose, quand les députés, les candidats vont aller sur le terrain, évitez d'aller dans ces véhicules. Parce que tu ne sais pas le problème qu'il a avec les autres. Et là, vous exposez à la mort. Parce que une fois on attaque le véhicule, et toi aussi tu es attaqué. Deuxième chose, l'équilibre. Au niveau de l'article que le major nous a dit, là je vais me dire une chose. Il est appelé. Si vous donnez 5 minutes à l'autre, donnez les mêmes 5 minutes à l'autre. Donc ça va nous aider, nous journalistes. Et évitez d'aller dans les véhicules dans lesquels il se trouve les candidats qui vont là vous exposer. À ce que le major nous a dit, là je vais aller en dehors des élections. Par exemple, nous sommes dans une zone opérationnelle. Vous allez au reportage supposé à Massissi, il y a des affrontements. Lui, attaque porte-parole, il n'est pas informé. S'il vous arrive quelque chose. Donc en fait, la responsabilité d'abord revient à nous et maintenant, après, on peut vous sécuriser. Parce que lui, il peut appeler. Écoutez, il y a un journaliste qui vient telle part. Nous, comme armée, nous connaissons. Veillez l'aider sur terrain.
En répondant aux questions des participants, des panélistes formulent certaines recommandations.
Mon ami a voulu avoir une idée sur la ligne rouge à ne pas franchir. Je crois que la ligne rouge à ne pas franchir dépend. Si c'est un politicien qui vous parle d'une ligne rouge à ne pas franchir, il sait de quoi il veut parler. Et nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, nous savons ce que nous appelons ligne rouge à ne pas franchir. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Vous tenez à tout prix que votre liberté d'expression soit respectée. Mais écoutez, ce n'est pas ça lorsqu'il y a des opérations. Il est vrai que vous pouvez faire une descente sur terrain. Vous avez une information. C'est une information. Au nom de la liberté de la presse, oui, elle peut passer. Mais nous, en tant que militaires, nous voyons l'impact négatif que cette information aura sur les militaires qui sont restés au fond. Je vous donne un exemple facile à comprendre. Vous faites une descente sur terrain, vous trouvez qu'il y a un bataillon qui est tombé dans une embuscade. Un bataillon. Vous savez c'est combien de militaires? Et vous avez l'information. Mais chers amis, tenez compte de l'opportunité. Nous sommes au Nord Kivu. Un autre exemple facile à comprendre, parce que nous sommes au Nord Kivu. Nous allons traquer les Mai Mai Mazembe. Vous savez que ce sont la plupart, je m'excuse, moi je ne suis pas tribal. Hein. Et il arrive qu'on en tue 200. Et vous avez l'information. Tenez compte de l'opportunité, mais aussi l'environnement. Nous sommes au Nord Kivu. Donc vous avez un peu compris c'est quoi la ligne rouge à ne pas franchir. Mais aussi, ce qui doit vous guider, c'est quoi? La victimisation est une tilpitude. Vous savez bien qu'il ne faut pas le faire, mais vous le faites. C'est là le problème. Je vous ai dit bien avant que l'État congolais tient aussi à ce que la sûreté interne et externe soit sécurisée. Mais vous devez aussi faire preuve de patriotisme et non d'exposer sur la place publique tout ce qui peut nuire à la sûreté. L'armée est appelée à faire ce qu'on appelle, passez-moi les termes, c'est un terme technique, la défense sur zone. C'est la police qui est appelée à travailler à l'intérieur. Alors, parce que nous sommes dans une situation d'exception, comme c'est le cas dans notre province du Nord Kivu, vous verrez que l'armée joue le deux rôles. Mais la réalité, c'est que pour que l'armée puisse jouer le rôle de la police, l'armée doit être réquisitionnée. Et une fois réquisitionnée, cette dernière est sous commandement de la police. Donc, bien que réquisitionnée, mais écoutez, nous nous laissons guider par la police. C'est la police qui vit avec la population à longueur des journées. C'est la police qui connaît que ça, ceci constitue une infraction. Ce n'est pas l'armée. Nous sommes sous le commandement et lorsque un commandant de la police nous dit que voilà, il faut arrêter, on arrête. Nous sommes sous commandement. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les choses.
Merci pour la parole. Merci aussi pour l'intérêt. Sauti Amatumaini. Bien sûr, là, il faut faire preuve de votre niveau professionnel. Puisque ce soit la majorité ou l'opposition, personne ne viendra vous dicter la manière de traiter les formations. Puisque, au finish, c'est votre rédaction, c'est votre niveau professionnel de rendre les formations que nous allons consommer, nous, comme soit lecteurs, auditeurs, téléspectateurs ou internautes et autres. La majorité fait sa guerre politique. L'opposition aussi. Vous savez, un parti politique n'existe que à comme, disons, objectif final, c'est accéder au pouvoir. Et pour notre pays, nous avons la constitution qui est claire là-dessus, c'est par la voie des élections. L'actuel contexte politique est en train de dicter, n'est-ce pas, le modus operandi et gouvernanti de notre nation. Nous avons par exemple l'accord de la Saint-Sylvestre, nous avons tous les débats et toutes les contradictions qui ressortent, n'est-ce pas, de cet état des choses. Mais il appartient maintenant aux professionnels des médias de faire montre de ce degré élevé de professionnalisme. Puisque par exemple, si c'est vrai, on utilise les enfants dans les manifestations, cela est condamnable, n'est-ce pas, par la loi. Et il appartient aux journalistes de se référer toujours aux principes fondateurs de la profession, que sont par exemple la véracité, l'exactitude, l'objectivité, le bon sens. Et Cosmas le sait, puisque ma liberté se limite là où celle de l'autre commence. Il n'y a pas de liberté par procuration, il en va de la liberté et de la connaissance.
Je pense, juste un mot par rapport à la ligne rouge. Je pense que informer, c'est choisir. On n'est pas là pour cacher les faits. Il y a des faits qui sont là, mais il faut choisir comment les donner et pour quel objectif. Je pense que le major nous a donné l'article 13 de notre code. Je vais lire pour ceux qui n'ont pas cette copie avec eux ici. L'article 13 dit « Faire preuve de retenue dans la présentation des faits de nature à mettre en danger ou de nuire aux intérêts vitaux de l'État et de la société. » Et l'article 10, il nous a dit de nous réfugier là-bas si nous avons violé cet article. L'article stipule « Rectifier spontanément toute information révélée, en tout ou en partie erronée, et faire publier sans frais ni récrimination les rectificatifs, précisions, réactions contradictoires et droits de réponse des personnes citées dans ces papiers. » Par rapport à cette ligne rouge, moi je pense que le code, il est clair. Et notre discipline personnelle entre en jeu. Il y a des choses qu'on ne rectifie pas par un droit de réponse. Je vais donner un exemple pratique que nous avons connu. Il y avait, c'est encore en rapport avec le territoire de Rutshuru, des zones dégarnies par l'armée qui étaient parties en opération ailleurs. Il y avait des groupes armés en activité et il fallait que l'armée puisse envoyer des renforts sur place. Les groupes armés étaient là, maîtres des terrains, et la population avait demandé que les effectifs des FARDC soient revus à la hausse. Et il y a un média qui a appris cette nouvelle, qui avait l'armée qui était en mouvement et qui a donné l'information. Heureusement que les mal n'étaient pas encore arrivés, le mouvement de ces militaires a été arrêté. Parce que s'ils avaient continué, ils auraient pu peut-être tomber dans une embuscade de ces groupes armés qui les attendaient sur terrain, sur la route. Alors, si seulement ces militaires-là avaient été attaqués, est-ce qu'un droit de réponse aurait pu rectifier le mal? Non. Donc, il nous revient à nous. C'est notre code qui le dit, de faire preuve de retenue quand vous avez des informations qui peuvent venir nuire non seulement à l'État, mais aussi à la société. Le code est clair, faisons toujours l'effort de les parcourir pour ne pas crier à tout moment à la violation de nos droits.
Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission centrée sur la sécurité des journalistes du Nord Kivu en période préélectorale. Responsabilité des journalistes, respect des consignes des agents de l'ordre, recherche de l'intérêt public, équilibre des informations sont parmi les conseils qui ont été prodigués aux professionnels des médias pour mieux se sécuriser. Aux acteurs étatiques, la recommandation est de déployer plus d'efforts pour rendre le travail des journalistes aisé. J'étais Gisèle Baheni à la présentation. Jaro Kamundu a assuré la mise en onde. Merci d'avoir suivi ce magazine. Au revoir.